Bonjour et bienvenue, c'est le meilleur de la bande originale avec Leïla Kaddour Boudadi, Daniel Morin, Albert Algou, l'humeur de Thomas Wiesel et l'info maltraitée par Tanguy Pastureau. Au programme aujourd'hui, André Dussolier, la bande originale de Michel Faux et en live, Steven Wilson. Le meilleur de la bande originale, c'est parti. Vous allez bien, André, ravi de vous accueillir.
Moins bien que Patrick.
Ça va très bien, ça va très bien.
Novecento, on en avait parlé, on l'avait vu, on l'avait apprécié. Ça s'était passé au Théâtre du Rond-Point. Vous reprenez d'ailleurs le 6 octobre jusqu'au mois de décembre au Théâtre Montparnasse. L'histoire d'un gamin qui naît sur un paquebot lors d'une traversée, qui est abandonné sur un piano et qui devient le plus grand pianiste de l'histoire de la musique.
Voilà,
jazz.
Un conte de Baricot. Et en effet, c'est toutes les histoires de cet enfant qui se balade entre l'Europe et les États-Unis, qui découvre toutes les musiques, qui est abandonné sur son piano, qui est élevé par l'équipage. Et c'est une grande liberté d'autodidacte qui fait comme ce qu'il veut avec la musique et qui joue le jazz qu'il découvre et puis qui joue aussi les classiques qu'il connaît à la manière du jazz. Enfin, c'est très vivant. Et puis, donc, j'ai la chance d'être accompagné par un quatuor de jazz. Donc,
inimitable et éternel Atlantic Jazz Band!
Ouais, parce que c'est pas vraiment un seul en scène.
C'est pas qu'un monologue.
Non, c'est né comme ça. C'est-à-dire qu'un producteur me dit, mais t'as pas quelque chose où on pourrait allier les mots et la musique? Et en effet, j'ai pensé à Novecento qui avait été créé dans les années 2000. Et donc, je sentais que la musique pouvait vraiment être un personnage et être là présente et prendre le relais des mots.
Je parle et je ne vous ai même pas encore présenté ceux qui, eux seuls, sont le son. Ce sont les musiciens. Tout d'abord, ou tout tribord, puisque très adroit, à la basse, Rémi l'adoré de ces dames.
L'Émile adoré de ces dames.
Et vous faites vivre.
C'est rempli de jeux. Il y a tout un passage, en tout cas. C'est pas toute la pièce qui est comme ça, mais il y a un passage en particulier qui est rempli de jeux de mots.
À Stéphane de Groot, parce que c'est un présentateur, et dans le texte de Baricot, bon, il n'est pas aussi digne des présentateurs de grandes traversées comme ça, comme je les imaginais. Et Baricot m'a laissé la liberté de pouvoir l'adapter. Et de Groot, qui s'amuse avec les mots, et voilà, a fait trois pages comme ça qui sont assez savoureuses sur la présentation de l'orchestre. Mais ce présentateur ne veut pas lâcher la scène, donc il parle de tout et de rien avant d'arriver à présenter les musiciens.
Je t'ai bien coupé la chic comme il faut, oui, Leïla, pour démarrer cette saison. Pardon.
Il fallait qu'on donne le ton.
Pas perdre les bonnes habitudes.
Bah non, écoute, ça fait 4 ans comme ça.
Oui, c'est vrai.
Ça marche.
Je peux y aller? Non, je vais en dire. Et André Dussolier, c'est un superbe rôle qui vous a valu un Molière, déjà, il faut le dire, et qui, c'est un rôle en or parce que vous naviguez, pour le coup, d'un personnage à l'autre.
Oui, c'est ça, oui. Parce que dans cette traversée, il y a tous les personnages, la vieille américaine, le capitaine, le commandant du bateau, enfin bon, bref, tout le monde, Novecento, le trompettiste que je joue et qui raconte cette histoire. En effet, alors donc c'est assez vif et il y a des moments très différents. On est en pleine tempête, donc il y a la tempête à vivre. Il va jouer sur son piano en pleine tempête. Enfin bon, vous imaginez tout ce qui peut se passer sur ce bateau pendant 7 jours. Et c'est très virevoltant et c'est dansant aussi.
Alors, j'espère maintenant, Albert Algou, vous avez bien compris pourquoi, enfin c'est pas Albert d'ailleurs, c'est Jean-Dominique Besnéard, pourquoi nous avions invité André Dussolier. Il a compris maintenant.
Salut Nagui, salut les seconds rôles, les chauffifres, salut André Dussolier. Alors je me présente, effectivement, Jean-Dominique Besnéard. Alors attention, pas de confusion fâcheuse avec mon cousin Dominique, qui a un défaut de prononciation absolument atroce.
Je l'embrasse.
Lui, il était agent des stars.
On l'embrasse.
Moi, je l'embrasse.
Sophie Marceau, Jabel la Gianni chez Cécile de France. Moi, je suis l'orthophoniste des stars, du cinéma et de la chanson. Mon job, c'est coacher les stars pour bien respirer, bien prononcer. Par exemple, c'est moi qui ai coaché le mime Marceau. Bon. Alors, vous pensez tous, je vous entends penser. Hein. Qu'est-ce qu'il fait dans ce studio, ce type-là? C'est simple, c'est Nagui qui m'a adressé un SMS. Alors, je cite.
C'est pas facile à dire déjà ça.
Jean-Dominique, je reçois André Dussolier pour son spectacle Novecento. J'ai besoin de toi d'urgence. Donc, là, c'est moi qui reprends la parole. J'arrive ce matin France Inter et là, Nagui me chuchure. Je cite de Rochef. Jean-Dominique, faut que je te dise, je suis arrangé pour recevoir Dussolier parce que sa pièce n'a pas commencé, ce qui me donne une excuse pour ne pas y avoir assisté.
Mais si, au contraire.
Ouais, c'est
ouais, déjà vu.
Idem pour chez Feignasse de la bande originale. Pas vu la pièce.
Là, ici, là, il a vu aussi.
Mais, a poursuivi Nagui, chute, silence.
Pardon.
Mais a poursuivi Nagui. Duchelier, franchement, son succès, pour moi, c'est incompréhensible. Pour dire ses textes, il ouvre à peine la bouche, les lèvres cirées, avec les commissures sous tension. C'est pas de la diction. Donc, Jean-Dominique, comme t'es l'orthophoniste des stars, je ne sorte que pour tester sa prononciation à Duchelier. Bon. Alors, cher André Duchelier, je partage pas du tout la perplexité de Nagui, son scepticisme. Moi, je vous avais trouvé sans sas dans Monstre sacré, sacré monstre, exceptionnel dans les pièces de Tchekhov, Schnitzler, Max Frisch, Sacha Guitry. Mais pour rassurer Nagui, je vais vous soumettre un test de diction, donc je suis sûr que vous allez vous sortir avec succès. Vous allez répéter après moi les phrases inscrites sur ce papier que voici. Alors, vous allez répéter. Combien c'est 606 au 606 ? 6 sous, c'est 606 au 606. Allez, vas-y.
Combien c'est 606 au 606 ? 6 sous, c'est 600, 6 au 606.
À Claire.
On
enchaîne, Plus difficile, plus difficile. Je cherche chez Chio, chez Sancho. Je cherche chez Chat, chez Sacha. Je cherche chez 1616, chez 116.
C'est pas possible, on n'a jamais eu des phrases comme ça au conservatoire.
Si, si,
au conservatoire. Je cherche chez Chio, chez Sancho. Je cherche chez Chat, chez Sacha. Je cherche chez 1616, chez Sanchez.
Chez la classe. Et maintenant, une dernière à toute vitesse. Une dernière, si je mouille mes coudes se mouillent-ils ? Oui, mes coudes se mouillent.
Il y a un truc derrière là, non ?
En vitesse.
Si je mouille mes coudes se mouillent-ils ? Oui, mes coudes se mouillent.
Accélère.
Si je mouille mes coudes se mouillent-ils ? Oui, mes couilles se mouillent.
Voilà,
le piège.
Voilà, c'est super. Vous êtes rassurés, Nagui. Alors, bonne émission.
C'est gentil.
Merci,
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale. Avec Nagui.
Alors Novecento, cette pièce où on articule bien et où la musique swing
bien prononcée, hein.
Du début jusqu'à la fin du 1er septembre au 1er octobre, et ça sera au théâtre du Rond-Point et ensuite au théâtre Montparnasse du 6 octobre au 17 décembre. Il y a plein de messages subliminaux aussi dans cette pièce. C'est pas uniquement l'histoire, un conte de fées comme ça sur un bateau. Il y a des messages sur le d'abord dans une période de migration des enfants abandonnés à la naissance. C'est un fait qui a été
Le principal message, c'est vous pouvez abandonner vos enfants.
Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que le point de départ est un point extrêmement triste, mais vrai.
Oui, parce que l'office de l'immigration, il y a beaucoup d'Italiens qui partaient comme ça, et quelquefois, une femme enceinte pouvait accoucher sur le bateau, mais ils ne pouvaient pas arriver à trois s'ils avaient été déclarés qu'ils arriveraient à deux. Donc, du coup, ils abandonnaient l'enfant sur le bateau. Quelquefois, ça arrivait, en effet. C'est basé sur des choses réalistes, ces traversées-là. Et puis, en même temps, c'est vrai que c'est un conte, parce que c'est l'histoire de l'enfant qui naît sur le bateau, et puis qui finalement descend jamais à terre parce que la terre c'est trop grand pour lui, c'est un clavier trop grand pour lui, c'est très angoissant et finalement il va beaucoup plus loin, il a l'impression d'aller beaucoup plus loin avec ses 88 notes sur le piano que là devant toutes ces rues, il sait pas laquelle choisir, quelle femme, quelle maison, quelle manière de voyager, de mourir, enfin bon voilà, c'est cette manière d'être avec soi-même et ou alors d'être éparpillé au milieu des autres.
C'est le paradoxe, il est effrayé par le choix finalement, par l'immensité du monde et en même temps il excelle sur son piano avec la possibilité de faire les combinaisons qu'il souhaite pourtant.
Voilà, est allé aussi loin, il appartient à aucune école, alors que dans le monde, faut trouver sa place, on appartient à des écoles, il faut choisir. Je discutais de ça avec un spécialiste du piano, et je sais que chaque chose est bien cataloguée, quoi. Je connaissais un grand pianiste de classique, Dimitri Nagy, pour ne pas le nommer, qui est tombé.
Ne le nommez pas alors, en réalité.
Voilà,
Ne le nommez pas, si je
dis pas. C'est pas désagréable.
Non, mais c'est vrai, je ne veux pas le nommer, il le nomme.
Chasse le naturel.
Et donc, du coup, l'Union France, voilà, pour faire du jazz, mais chaque chose est bien cataloguée.
Vous jouez d'instrument, vous ?
Non.
Vous touchez ?
Non.
Quand on dit non comme ça, ça veut dire qu'on en fait un peu.
Au cinéma ou ailleurs, mais enfin oui, on est toujours enfermé dans une discipline et c'est difficile. Donc lui, il a cette liberté d'autodidacte et il passe de la musique classique au jazz, ce qu'on ne s'autorise pas à faire forcément.
Et Alessandro Baricco, ce qu'il faut dire, l'auteur du texte, il est musicologue.
Oui, exactement.
Il n'a pas marié comme ça la mer et la musique de façon complètement.
Il y a fait beaucoup de romans. Il y en a un qui s'appelle Soi, qui a eu un prix d'ailleurs important en France.
Château de la Colère aussi.
C'est un auteur très contemporain italien qui est très, très connu et très aimé. Et voilà.
Il a été même pressenti pour être ministre de la Culture en Italie par Matteo Renzi. Donc c'est vraiment un contemporain, Baricco.
Quelle serait la morale s'il faut trouver une morale ? Parce que c'est un conte. Donc qui dit conte, dit morale.
Que dans ce monde, monde où chacun cherche sa place et a tendance à se perdre en route, ben que lui, en étant proche de son art et d'aller le plus loin possible, c'est, ben il va beaucoup plus loin que les autres finalement. Il cultive son plaisir. Voilà, c'est cultiver votre plaisir et tâcher d'être vous-même.
D'accord, on est...
c'est très sentencieux, hein. Que c'est très léger quand même cette histoire-là, et ça se passe vraiment avec...
Non mais cultiver son jardin, chacun doit cultiver son jardin, d'un coup on revient aussi au grand classique de...
Oui.
La botanique.
Du théâtre. Non.
J'écoutais que la fin de ta phrase.
C'est ça, c'est un mec qui a fait un traité sur un jardin, t'inquiète.
Novecento, du 6 octobre au 17 décembre.
Le 31 décembre, au moins jusqu'en...
Au moins...
Oui, parce que le 17 décembre, ce serait dommage de s'arrêter à ce
très
moment-là.
Bien.
Où il y a...
Au moins jusqu'au fait, alors. Allons-y, jusqu'au 31 décembre, au théâtre Montparnasse. Les oreilles de Leïla ont sifflé quand on a annoncé la venue d'André Dussolier.
Et oui, André, j'entends des voix. Et quand je pense à vous, alors j'entends plein de choses. Hein. Je pensais à vous dans On connaît la chanson, vous voir chanter Vertige de l'amour de Bachung ou Ma gueule de Johnny. Mais là, non, vraiment, la première sensation, c'est que j'entends cette voix, une autre voix.
En recevant ce César qui me touche, parce que je pense à ceux qui ont disparu, qui m'ont presque obligé à faire ce métier, je veux dire Lino Ventura, qui m'a obligé à faire mon premier film, Romy Schneider, Patrick Devers, Yves Montand. Sans eux, je ne serais pas là.
C'est Claude Sauté.
Ah, musicologue aussi, grand musicologue.
Eh oui, on est en 1993, il reçoit le César du meilleur réalisateur pour Un cœur en hiver. Et dans une interview, André Dussolier, vous dites à son sujet quelque chose de très très beau. Je l'ai attendu, Claude Sauté.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire d'attendre pour un comédien?
Il manque des mots dans la phrase.
Non, justement.
C'est ça, il manque des mots.
C'est pas une SMS.
C'est tu salis tout, tu pollues tout, il y a un truc.
Il y a le correcteur, t'écris pas toujours ce que tu veux.
Ça s'est passé Gare de Lyon.
Et voilà. C'est bien de dire ça parce que, en effet, ce que j'aimais chez Claude Sauté dans ses films. C'est pas possible. On va pas tenir, vous avez entendu.
On a tenu 3 ans, on peut tenir 1 heure.
Ce qui était bien avec Claude Sauté, c'est qu'il était très économe, il n'était pas sûr, il y avait beaucoup les silences. Et pour un acteur, c'est magnifique d'avoir à jouer les mots, évidemment, mais aussi les silences, tout ce qui se passe et tout ce qu'on n'a pas à dire avec des mots, mais à faire ressentir. Donc c'était ça mon désir. Malheureusement, la première fois que j'ai rencontré Claude Sauté, je ne sais plus, il sortait d'un ascenseur, il me dit... Et il était en train de chercher sa distribution pour César et Rosalie, il m'a dit « Dommage que vous n'ayez pas le nez cassé ».
Bon, et là, il vous met un bourre-pif direct.
Non. Mais après, je l'ai rencontré, en effet.
Thomas,
si vous avez attendu Claude Sauté, qu'est-ce que vous avez fait avec Claude attendu? Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi je dis rien depuis le début de l'émission. Je vais m'en aller comme fini.
Ça s'appelle la dyslexie.
Oui, hein, voilà.
Mais je me demandais justement, l'attente d'un comédien, j'ai trouvé que c'était presque une déclaration d'amour. Je l'ai attendu, Claude Sauté, comme si on avait attendu toute sa vie, la femme de sa vie. Et si l'attente ne prenait jamais
ça
fin.
Ça arrive, et j'aurais bien aimé le retrouver aussi, Claude Sauté, comme j'aurais bien aimé retrouver François Truffaut. Mais par exemple, j'ai failli rater un rendez-vous important pour moi, c'est René. Oui. René, la première fois, il me propose un rôle, et puis j'étais pas libre, j'étais au théâtre, et une rencontre qui se fait pas, c'est pas bon, quoi. Ça veut dire que si on dit non à un metteur en scène, même pour de bonnes raisons, eh bien, il est pas sûr qu'il revienne et qu'il vous propose encore.
À ce moment-là, dès que vous dites non à quelqu'un, dès que vous refusez un projet, c'est forcément un rendez-vous raté.
Un peu. Ouais. Il y a quelque chose d'affectivement cassé, quoi. Enfin, comme si vraiment la liaison n'avait pas pu se faire, le lien n'avait pas pu se créer.
C'est pas une vision angoissée, ça? C'est pas une vision.
Non, si, on aurait dû dire oui.
On peut se dire, on se retrouvera plus tard. On n'est pas
oui,
forcément...
Mais ça s'appelle procrastiner, c'est
non,
pas forcément...
Non, c'est se dire que c'était peut-être pas
mais
le
ça,
moment.
Mais ça, c'est ce que tu me dis depuis 3 ans.
C'est bah justement, ça. Ce que je veux t'expliquer, c'est que c'était peut-être pas le bon moment, ça viendra plus tard.
C'est long, hein.
Aucune vanne avec Claude Sauté, non, c'est bon,
c'est
ok,
bon.
D'accord.
On le laisse.
Novecento, l'idée même d'ailleurs du prénom est assez originale. Comment appeler un bébé abandonné sur un piano, un bébé abandonné par ses parents qui sont en train de migrer vers les États-Unis, qui ne peuvent pas arriver avec un être humain, un être vivant de plus que ce qu'ils avaient déclaré au port d'embarquement. Et le prénom se fait presque à partir d'une caisse dans laquelle on le retrouve.
Exactement, la caisse où il y a des citrons, je ne sais plus, et qui en effet fait que il y a des titres
Lemon.
Italiens, ouais, Lemon
ou Lemoncello.
Et c'est, oui, et Novecento, ça représente le début du siècle, quoi. Enfin, ça se passe dans les années 30. Donc, voilà, il décide de rajouter Novecento. Ça.
Quel a été votre rôle, vous, dans le montage de cette pièce? Vous avez
Depuis le départ,
été actif,
vous voyez le fait? Oui, très actif, parce qu'on a participé à l'adaptation, d'abord, avec Gérald Sibleras et Bistéphane de Grotte aussi. Puis après, j'ai travaillé avec Pierre-François Limbauche, qui est un scénographe. Et puis, voilà, les choses se sont faites comme ça, entre nous, jusqu'au bout. C'est plus facile, parce que c'est un monologue, mais on avait vraiment anticipé, et donc on avait vraiment dessiné un peu comme un conte, et avec l'envie de jouer les choses un peu comme je les ressentais.
Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est une pièce magnifique, je crois qu'on l'a pas assez dit depuis le début de l'émission. Pourquoi? Parce que c'est un spectacle grand public, et c'est pas du tout péjoratif, au contraire, parce que vous parvenez à mêler... c'est un grand succès sur scène, et ça s'explique facilement, hein, parce que vous êtes poétique, léger et virevoltant à la fois, André Dussolier, et ça, c'est inestimable. Et puis aussi parce que c'est un spectacle total. On a parlé tout à l'heure un peu de la musique, un petit peu de la scénographie, mais en fait, il faut envisager Novecento comme un spectacle global avec tout ça. Et je trouve que, c'est une très bonne porte d'entrée pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. Mmh. Voilà. Parce que c'est vous rencontrez vous déjà sur scène, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, entrer dans cet univers-là.
Et puis, on sent le plaisir d'André Dussolier à être sur scène aussi.
Et voilà,
à vivre
et ce côté communicatif. Et puis, c'est un spectacle exigeant sans en avoir l'air comme ça. Mmh. C'est-à-dire que, on voit pas le temps passer et on embarque, nous aussi. On fait cette traversée sur le Virginia.
Grâce à des jeux de lumière aussi, à une scénographie importante, la mise en scène.
C'est vrai que vous êtes très aidé par la lumière.
c'est nécessaire, hein, théâtre. Oui, hein. Il n'y a pas de lumière.
J'ai l'impression que ça vous sauve souvent quand même, la
lumière. Reparlons donc de Novecento, cette pièce musicale, qui est d'ailleurs, il y a une proportion quoi, de 50-50 entre la musique et vous, il y a quand même plus de texte que de musique.
C'est le texte, ouais. D'abord ça reste une pièce de théâtre, et d'ailleurs Baricot lui-même n'était pas partisan de mettre des musiciens sur scène. Il me disait, moi je la raconte la musique par les mots, et je raconte ce qui se passe, le fameux duel entre Jerome Morton et Novecento. C'est vrai qu'en effet, les mots ont leur fonction, et je comprends qu'un auteur dise ça, mais vraiment, il y avait la place pour que la musique, tout d'un coup, et dans ce cas-là, d'ailleurs, ça allait bien, parce que j'avais pas de raison de rester en scène à l'écouter. J'aime pas la musique qui aurait accompagné le récit. Donc franchement, il y a une proportion, je ne sais pas, mais enfin, je l'ai pas calculé, mais c'est quand même le texte qui est majoritaire et qui est le plus important.
Et on peut moins improviser, j'imagine, ou moins avoir de trous de mémoire, parce que là, c'est une partition dans tous les sens du terme.
Ah oui, oui, non, là, puis j'ai pas de partenaire, donc il est vraiment... je pourrais improviser moi-même, mais non, là franchement c'est bien, c'est une partition comme vous dites.
Tout à l'heure vous parliez de Rubinstein qui avait remarqué que c'était le moment de s'arrêter de jouer parce qu'il y avait eu une fausse note qui s'était glissée ou un jeu qui était moins précis, en vous disant je ne sais pas ce que ça pourrait, comment ça pourrait se traduire pour un acteur sur scène. Est-ce que la mémoire est le premier signe peut-être envoyé de mettre le haut là ou...
Ouais, mais
ça se travaille justement.
Je sais pas, c'est l'envie quoi, je pense. C'est le plaisir, la capacité de c'est pas tellement la mémoire c'est un outil. Enfin évidemment ça compte bien sûr, et il y a des acteurs qui ont dû arrêter leur métier parce que tout d'un coup il y a eu un problème de mémoire et voilà.
Mais dans Novecento, la partie notamment réécrite par De Grotte, où là tous les mots se répondent et l'humour et la plaisanterie ne fonctionnent qu'avec cette succession de mots et de jeux de mots. Si on en rate un, c'est une catastrophe.
Pas possible. Non mais ça, c'est, voilà, on n'a pas le droit, c'est normal, ça fait partie du métier, c'est le plaisir qui guide et qui guide la mémoire d'ailleurs.
Heureusement que vous avez le prompteur, hein, parce que sinon...
aucun prompteur et aucune oreillette.
Hein. Mais certains maintenant comédiens jouent avec
un prompteur,
oreillette en tout cas.
Ah, oreillette, oui, j'ai entendu dire ça, je sais pas comment ils font.
Ils font pas très bien, mais ça on s'en rend compte quand on y va.
France Inter, la bande originale, le best-of. Avec Nagui.
Steven Wilson, To The Bone, c'est l'album. Et en live, il est là avec Pareia, seul, guitare et computer.
I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said. Now it's much too late. the words stay in my head. So the day will begin again. Take comfort from me. It's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you. It's up to you now. So pariah, you'll begin again. Take comfort from me, and I will take comfort from you. Facebook, tired of my failing health. I'm tired of everyone, and that includes myself. Well, being alone now, it doesn't bother me, but not knowing if you are, well, that's been hell, you see. So the day will begin again. Take comfort from me. It's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you. It's up to you now. So pariah, you'll begin again. Take comfort from me. It will take time. Don't you worry, don't worry about a thing. 'Cause nothing really dies, nothing really ends.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Dans quelques instants, nous évoquerons la bande originale de La vie de Michel Faux, mais d'abord, voici Thomas Wiesel.
Merci.
C'est déjà bien, Thomas. C'est déjà formidable ce que tu fais.
Merci beaucoup. Et hier, c'était la journée sans voiture à Paris. Et si ça vous a énervé, sachez que les femmes d'Arabie Saoudite, elles, en sont à leur 13514e journée sans voiture consécutive. Ça calme, hein. Mais c'est bientôt fini parce qu'on a appris cette semaine que dès juin prochain, elles seront autorisées à conduire. Ça fait 30 ans qu'elles se battent pour gagner le droit de conduire. Ça veut dire que les premières activistes, leur voiture de rêve, c'était une Peugeot 105. Rendez-vous compte. L'annonce a tellement réjoui les femmes du royaume. J'ai vu une interview où l'une disait « Je n'ai pas dormi tellement je suis heureuse ». Mais alors c'est mieux que tu prennes pas le volant tout de suite, si je peux me permettre, dors un peu d'abord. Alors pourquoi abolir l'interdiction maintenant? Alors je vous vois venir, Daniel, non, ce n'est pas parce que les constructeurs ont inventé l'assistance au créneau, c'est pas ça. Heureusement, le cliché que les femmes conduisent moins bien que les hommes est de plus en plus mis à mal, et d'ailleurs pour ça on peut remercier Benoît Magimel et Paul Walker. Non, j'ai quand même une inquiétude, c'est que les femmes peuvent conduire en Arabie Saoudite, certes, mais elles restent obligées de porter un voile intégral. Alors bonjour, la vision périphérique avec ça.
Ah ouais, c'est dangereux ça. Ah,
vous connaissez la taille de l'angle mort en niqab, c'est 270 degrés. Hein, ça va être un carnage. Attention, t'as une voiture à droite, ou ça, elle voit rien, boum quoi. Non, dure semaine en tout cas pour les fondamentalistes saoudiens. Non seulement les femmes pourront conduire, mais il y a bientôt plus une seule vierge au paradis, puisque ça fait déjà 6 jours que Hugh Hefner est mort. Du coup, Jean-Luc Lahaye n'a même plus envie d'aller au paradis, c'est triste, c'est triste. Mais que les saoudiens conservateurs se rassurent, faudra toujours être un mec pour conduire les hélicoptères que leur vend la France, les chars d'assaut que leur vend le Canada, ou les avions de combat que leur vendent les États-Unis, parce que le seul truc que l'Occident préfère que critiquer mollement l'Arabie Saoudite, c'est vendre des armes à l'Arabie Saoudite, parce que les principes c'est bien, mais l'argent c'est mieux. Mais il y a encore beaucoup d'obstacles pour les femmes en Arabie Saoudite, elles ont un accès plus difficile à l'éducation, à la propriété, à l'emploi, au sport, aux tribunaux. Être une femme en Arabie Saoudite, c'est comme être Gilbert Montagné au Pictionary, tout est plus difficile. Par exemple, cette semaine, un haut dignitaire religieux a déclaré, je cite, il a dit « Les femmes ne doivent pas être autorisées à conduire, elles ont normalement la moitié du cerveau d'un homme, mais elles n'en ont plus qu'un quart quand elles vont faire du shopping ».
Qui a dit ça ?
Oui, un dignitaire religieux saoudien. Donc voilà, lui, son postulat de base, c'est que les femmes n'ont que la moitié du cerveau. Déjà, il commence là. Ça, c'est une vérité scientifique établie pour lui. Voilà, l'eau ça mouille et les femmes ont un cerveau deux fois plus petit. Et ça, c'est l'échauffement.
Si c'est prouvé, c'est prouvé. c'est scientifique.
Pourquoi on perd du temps à discuter ?
Non, mais lui, il va plus loin. Après, il s'échauffe, il y va, il dit, mais quand elles vont faire du shopping, elles ont plus que le quart. Donc visiblement, dans les magasins en Arabie Saoudite, on paye pas avec la carte bleue, on paye avec son hypothalamus directement, garder la monnaie. Bon, Nagui, toi, tu me disais tout à l'heure que ta paire de baskets t'avait coûté un rein. Je crois que tu fais du shopping au même endroit que nous.
Mais on a toujours les Arabes, on est un peu tous pareils.
C'est un peu ça. Non, mais on a toujours pas répondu pourquoi l'Arabie Saoudite prend cette mesure maintenant. Peut-être parce qu'ils ont parcouru le Coran dans tous les sens, ils ont réalisé que les voitures n'étaient mentionnées nulle part, mais surtout parce que le pays, il essaie d'améliorer son image. Il y a du taf, hein. Les liens avec le terrorisme sont constamment dénoncés, ils massacrent des civils au Yémen, les opposants politiques continuent d'être réprimés, le blogueur Raif Badawi, il est toujours en prison pour ses écrits alors que Daniel Morin est toujours en liberté pour ses blagues. Mais paf, on donne le permis aux femmes pour détourner un moment l'attention, mais surtout des femmes qui conduisent, Nagui, c'est aussi des femmes qui pourront travailler, contribuer à l'économie, c'est plus de voitures sur la route, donc plus de voitures vendues et plus de plein d'essence. Et qui est le plus gros producteur de pétrole au monde? C'est l'Arabie Saoudite. Voilà, non, moi j'ai eu peur un instant qu'ils étaient devenus féministes. Ouf, hein, c'est juste, c'est tellement opportuniste que même Jean-Vincent Placé est impressionné. Parce que l'égalité, c'est bien, mais l'argent, c'est mieux.
Merci Thomas Bizet.
France Inter, Nagui, le best-of.
Et puis on parlait de ce Tartuffe qui est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Dans quelques instants, nous allons accueillir Jean-Marc Dumonté, producteur de pièces de théâtre, pour parler d'ailleurs de ces théâtres aussi qui appartiennent à quelques fortunes, et pour savoir pourquoi d'ailleurs ça attire autant de, je sais pas, de mécènes, ou est-ce que c'est un nouveau placement. On va en parler avec lui. Mais d'abord, Michel Faux, la bande originale de votre vie en musique, vous écoutiez par exemple en 1986.
C'est pas tant la peur du tonnerre avec son grand zigzag, c'est pas tant la peur des années avec leur grand zodiac, c'est pas tant la peur de l'enfer avec son grand tic-tac, c'est pas tant la peur de l'hiver avec son grand callback.
Jeanne Moreau, La Peur, en 86, c'était vraiment la bande originale de votre... de ce moment de votre vie ou...
Ouais, j'étais fou de Jeanne Moreau. J'allais la voir au théâtre beaucoup et parce qu'elle elle refaisait beaucoup de théâtre dans les années 80. Alors on a oublié d'ailleurs, parce qu'on parle toujours de Jeanne Moreau, on a oublié qu'elle a aussi joué du boulevard beaucoup et elle a pas joué que des auteurs intello et elle avait une façon de parler, une sensualité, etc. Après, à l'infini, c'était un peu la caricature d'elle-même, mais moi j'étais fasciné par sa voix et son parcours, cette carrière exemplaire au cinéma et au théâtre, est une carrière très audacieuse.
Quand tout à l'heure vous disiez à propos des acteurs que certains sont surdimensionnés au cinéma et ne font pas de théâtre, vous aimeriez convaincre quel acteur ou actrice de jouer au théâtre en imaginant qu'il ou elle est surdimensionné justement?
Non, je sais pas.
Quelqu'un vous manque, par exemple?
Moi, je l'ai fait avec Audrey Tautou ou Gaspard Ulliel ou Agathe Bonitzer, qui avait jamais fait de théâtre. Par exemple, Agathe Bonitzer, qui avait jamais fait de théâtre, elle a joué dans Britannicus. À l'arrivée, c'est celle qui disait le mieux les Alexandrins. Donc, je pense pas que ce soit une histoire de CV. Moi, je me base pas sur le CV des comédiens. Je me base sur leur personnalité, s'ils me font rêver ou pas. C'est pour ça que je peux travailler avec Chantal Latsou comme avec Michel Bouquet. J'ai pas d'a priori.
J'entends, mais le jeu d'un comédien au théâtre n'a rien à voir avec le jeu d'un comédien au cinéma qui peut être monté, coupé, pris sur plusieurs prises, il faut être juste dans le jaillissement de l'instant présent au théâtre, et ça c'est pas donné à tout le monde.
Oui, mais l'extravagance ou le... je pense que c'était Sidney Lumet qui disait il n'y a pas de différence entre le jeu théâtre et le jeu cinéma, mais c'est vrai, parce qu'il y a des acteurs extravagants au cinéma, et puis il y a des acteurs très, très dignes et très retenus au théâtre, donc je pense que l'idée de la folie, d'avoir un jeu qui part de la folie humaine, elle est commune.
D'accord, et la justesse?
Moi, je me suis jamais posé cette question-là parce que...
Nous est arrivé de voir des pièces de théâtre avec des acteurs de cinéma qui sont au théâtre et c'est une catastrophe.
Oui, mais il y a des gens qui parlent faux, qui sont formidables, comme Jean-Pierre Léo ou Bernadette Lafont, ou Delphine Seyrig, ils parlaient faux, ils faisaient du chanter-parler presque, mais ils étaient fascinants. Puis il y a des gens dans la vie qui parlent faux, donc je pense pas que la justesse ce soit... Même il y a des chanteurs d'opéra qui chantent pas juste, mais qui sont des telles bêtes de scène qu'on accepte...
Pourtant, on dit faux.
Oui, bien sûr. Même moi, j'ai une voix assez blanche. Je parle pas très juste non plus. Donc je. Il y a des gens dans la vie qui parlent faux.
Ouais.
Donc moi, c'est quelque chose
qui vous gêne pas.
Oh non, au contraire.
Et dans cette année 86, vous entrez au conservatoire. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vous venez de le dire, vous avez autant de plaisir à jouer avec une Chantal Latsou qu'avec un Michel Bouquet. Et en fait, c'est un peu ça aussi vos débuts, c'est de dire au conservatoire, j'arrive, j'ai pas envie d'être enfermé dans les grands textes. Moi, je rêvais d'autre chose que de jouer du Coltès, en gros.
Oui, c'était Coltès, c'était l'auteur à la mode dans les années 80, donc ouais. Tout le monde jouait du Coltès en imperméable et, pas éclairé. Et moi, j'avais envie de jouer Topaz de Marcel Pagnol, donc j'étais déjà totalement has-been, quoi. Déjà, à 20 ans, j'étais has-been.
Et là, Gérard de Sarthe et Michel Bouquet, qui étaient vos enseignants.
Et Pierre Vial aussi.
Et Pierre Vial, n'ont pas cherché à vous orienter vers cette vision un peu codifiée que tous les acteurs avaient à cette époque-là?
Non, c'est drôle parce que Pierre Vial, on a travaillé sur une opérette d'Offenbach et je ne savais pas qu'après j'allais monter des opérettes, donc il a annoncé ça, ce goût du théâtre musical. Et puis Bouquet, lui, il a été... parce que moi, je passais une scène de Fédo pour faire rigoler mes copains et il m'a dit... c'est comme ça qu'il faut jouer le drame romantique. Alors, je comprenais rien. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte, le vieux? Il dit n'importe quoi. Et en fait, il avait tout compris sur le mélange du grotesque et du sublime, du tragique et du burlesque et tout ça, qui après a été mon fond de commerce.
C'est un métier qui s'apprend, la mise en scène, ou c'est une excroissance d'une passion en étant comédien?
La mise en scène.
Ouais.
Moi, maintenant, il y a des écoles de metteurs en scène, mais avant, il n'y avait pas d'école de metteurs en scène. Je veux dire, Louis Jouvet, il n'a pas fait d'école de metteurs en scène. Donc, je pense que c'est un métier qui, c'est important. Moi, je trouve que le metteur en scène, même si après, il n'est plus acteur, mais qu'il ait quand même mis un pied sur une scène pour qu'il sache de quoi il parle. Maintenant, on a des metteurs en scène qui ont fait des études de philo et puis qui deviennent metteurs en scène, mais qui ne connaissent pas du tout les acteurs. Mmh. C'est comme si on demandait à un chef d'orchestre, comme si on envisageait un chef d'orchestre qui ne sait pas jouer d'un instrument. Ça, c'est impensable.
Mais pourtant, il y a des réalisateurs de films qui ne sont pas des comédiens. C'est un problème.
Oui, mais au cinéma, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un côté technique très 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 envahissant qui est différent.
Mais au départ, il y avait même pas de metteur en scène.
Absolument.
C'était le comédien.
Ouais. Il y avait même pas de chef d'orchestre.
Fédo, il y avait pas de metteur en scène.
C'était
Fédo qui.
Oui, absolument.
D'où les didascalies incroyables.
Et ça se passait très bien.
Oui,
ça se passait très bien.
Et ça se passait très très
non,
bien.
Non, mais c'est vrai que cette idée de. Et puis moi, je trouve ça très bien de jouer et de mettre en scène en même temps ce que faisaient tous les metteurs en scène jusque dans les années 80. C'est très récent cette idée que le metteur en scène doit être exclu du spectacle.
Dans le Tartuffe, c'est confortable d'être à la fois partie prenante et...
Ben oui, parce que le Tartuffe, il entre au milieu du spectacle. Il arrive qu'au milieu de la pièce, en fait. Donc, c'est
une feignasse, en fait.
Absolument, c'est une grosse feignasse.
Ça tombe bien, parce que Nagui arrive au milieu de la pièce aussi. Donc, il en a profité à 100%.
En 2000, première, justement, mise en scène pour Michel Faux, et vous écoutiez...
C'est une immense chanteuse d'opéra qui s'appelle Teresa Stratas, qui est grecque, qu'on appelait le bébé Callas, et qui là chante du Kurzweil en fait. Elle est toujours vivante, mais elle ne chante plus. Et c'est ma passion pour l'opéra. Elle avait notamment fait la Traviata au cinéma avec Zeffirelli. Et elle a été la loulou d'Alban Berg, de Pierre Boulez et Chéreau. Et c'était une très très une bête de scène. Et j'ai appris des choses. Encore dans Tartuffe, il y a un moment donné où je rends hommage à Teresa Stratas, je la singe dans Salomé à un moment donné. Donc c'est quelqu'un qui... J'ai appris des choses sur l'acteur en voyant des chanteurs d'opéra en fait.
Et l'opéra vous accompagne au quotidien, chez vous, vous écoutez des opéras, vous mettez un peignoir de soie avec des bougies parfumées.
Pas loin, aujourd'hui je me suis lavé les fesses en écoutant La Flûte Enchantée de Mozart, c'est vrai.
Ça s'impose, ça va bien.
Oui, c'est assez complémentaire.
Ouais, ouais.
Et dans ces années 2000, vous signez votre première mise en scène. C'est American Buffalo de David Mamet, c'était au Théâtre du Rond-Point, à la demande, je crois, de Michel Villermoz.
Oui, Michel Villermoz qui avait été élève avec moi au conservatoire. Et qui était formidable, il y avait les débuts de Nicolas Duvauchel, qui avait jamais fait de théâtre, qui était formidable. On avait joué tous les trois, oui. Moi, j'allais très très mal à cette période-là, Villermoz aussi, il n'allait pas très bien. Mais on s'est vraiment très bien entendu.
Vous n'étiez pas quoi, un comédien heureux à cette époque-là?
Si, mais on se sentait très seul dans notre vie privée, on va dire.
D'accord. Et Villermoz, il a joué Tartuffe il n'y a pas
absolument.
Très longtemps.
Oui, absolument, la Comédie française. Et là, c'est aussi le moment où vous commencez, en mettant en scène, à vous dire, voilà, je vais pouvoir aussi me distribuer, jouer les textes que j'aime et me servir, en fait, plutôt que d'attendre...
Mais moi, c'est ce que je voulais faire depuis le début. Et puis... Entre-temps, j'ai rencontré Olivier Py, qui était un auteur, qui a écrit des rôles pour moi, et ça s'est très bien passé, donc... Mais après, je me suis dit, il y a des textes que j'ai envie de jouer qu'on ne me propose pas, et puis il y a des comédiens avec qui j'ai envie de jouer. Et puis j'avais des visions comme ça de spectacle. Donc,
Et il y a des auteurs contemporains, parce que j'imagine pour un metteur en scène, dialoguer directement avec l'auteur, c'est quand même autre chose, qui vous font envie encore aujourd'hui?
Oui, puisque j'ai monté des pièces de Christian Siméon, j'ai monté une pièce de Barrier-Grédy, on a beaucoup travaillé ensemble avec Pierre Barrier. Mais je sais que Philippe Mignana, c'est un auteur avec qui j'aimerais travailler. Et puis j'ai commandé une pièce à Pierre Note aussi, qui est un auteur. Voilà, donc moi j'ai pas de... J'aime les auteurs inconnus, j'aime les auteurs oubliés, j'aime les auteurs classiques, j'aime les auteurs... Si l'écriture, s'il y a du style et du fond, ça m'intéresse.
En 2015, votre premier grand rôle au cinéma, vous l'avez évoqué tout à l'heure...
C'est pas ça, mon premier.
Non. C'est Marguerite, et là, vous écoutez Montserrat Caballé.
Écoutez ça, là. Attention, attention. Le bon passage, hein.
Ça vous procure quoi comme émotion d'entendre cette voix et ce passage de la Bohème ?
Vous l'avez quelle partie du corps avec cette...
La flûte enchantée.
Enfin.
À quoi ? Tout est... C'est les fesses, il faut savoir.
Oui, bon, ça va. Bon, ça va. Alors, bon.
Je suis dans un tel état que je suis obligé de reprendre une douche. Tout
je comprends.
Non, mais non, quelle émotion ? C'est de la tristesse, c'est de la...
Ah non. C'est totalement joyeux, c'est-à-dire que c'est de l'éblouissement. Et Montserrat Caballé, c'est pour moi vraiment le sommet de l'art, c'est-à-dire parce que c'est une voix immense, elle a tout chanté, et elle chante de façon raffinée. Parce que souvent, les chanteurs qui ont des grosses voix, ils gueulent, et les chanteurs qui chantent de façon raffinée, c'est parce qu'ils ont des petites voix. Elle a une voix immense, et elle fait des sons filés incroyables, quoi, irréels, quoi. Et elle a tout chanté, elle a chanté Mozart, Wagner, Puccini, Bernstein, Richard Strauss, et surtout... On se moquait d'elle parce qu'elle était grosse, et en fait, c'était une bête de scène. C'est pas parce qu'on est gros qu'on joue mal. Je trouve qu'il y a un racisme sur les gros qui m'énerve. Et c'est pas parce qu'elle est grosse qu'elle est mauvaise actrice.
Et pourquoi vous liez ce Montserrat Caballé, cette Bohème, à Marguerite? Parce que vous écoutiez sur le tournage plus qu'à d'autres moments?
Non, c'est parce que c'est assez récent. Je sais pas, c'était en quelle
2015.
Année 2015. Non, c'est parce que j'écoute beaucoup d'opéras, et notamment Montserrat Caballé depuis pas mal d'années.
Y compris lorsque vous travaillez un rôle, est-ce qu'il y a des musiques qui vous mettent en condition pour travailler un rôle ou vous mettre vous dans un état d'esprit particulier?
Bah oui, bien sûr. Par exemple, sur le Tartuffe, d'ailleurs, on l'a mis dans le spectacle. Il y a beaucoup de, il y a le Miséré de Delalande, chanté par Claire Le Filiatre, nous porte.
C'est une magnifique
chanteuse.
C'est merveilleux. Et donc en 2015, pour revenir au film à Marguerite, oui. C'est votre premier grand rôle au cinéma, un rôle que vous attendiez depuis quelque temps, j'imagine. Là, même chose, comment ça s'est produit? Qui est venu vous chercher? Est-ce que...
Bah, c'est Xavier Giannoli qui avait vu tous mes spectacles au théâtre et qui savait que j'aimais beaucoup l'opéra, puisque ça parlait de ça, Marguerite. Et voilà.
Qui est un formidable réalisateur.
Magnifique.
Directeur d'acteur.
Magnifique. Et ça s'est très bien passé. Puis j'ai tourné avec Catherine Froh, on s'est très bien entendu. Et c'est comme ça qu'après, on a eu l'idée de faire Fleur de Cactus au théâtre.
Oui, c'est le duo, voilà, vient de là,
ouais.
De cette rencontre-là.
Il y avait aussi André Marcon, pareil, un acteur formidable.
Vous dites beaucoup de bien, et tant mieux, de plein d'acteurs et d'actrices. C'est quoi la définition, sans donner nom cette fois-ci, d'un mauvais acteur ou d'une mauvaise actrice? Puisque tout à l'heure, vous disiez que même quand on parle faux, c'est une originalité intéressante.
Mais moi, je sais pas
à quel
ce que
moment
c'est...
on est mauvais.
Moi, je sais pas ce que c'est un mauvais acteur. J'aimerais bien en voir. Ce serait intéressant de voir des mauvais acteurs, vraiment très très mauvais.
Demandez-nous, on va vous faire un tour.
Non, moi, je pense plutôt que.
Mais non, parce que lui, il les trouve bons.
Non, ouais, moi, j'ai des goûts bizarres.
Demandez-nous, mais vous balancerez aucun nom.
Moi, j'ai des goûts bizarres. Non, mais moi, ce qui m'ennuie, c'est les acteurs justement qui jouent juste, parce que ça suffit pas. C'est comme un chanteur qui chante juste, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus, quoi. Il faut qu'il y ait une personnalité. Souvent, maintenant, les acteurs, ils jouent juste, ils parlent bien, ils sont sobres, ils en font pas trop, etc. Mais moi, je préfère un acteur qui déborde du cadre.
Même en tant que metteur en scène, c'est-à-dire quelqu'un déborde de votre cadre, vous ne cherchez pas en tant que metteur en scène à le recadrer?
Non, parce que je l'ai engagé pour sa personnalité.
Il cherche que ça, Michel.
Il cherche que ça, bah, tiens. Jean-Marc Dumonté ne peut pas résister d'intervenir. Bienvenue en tout cas, merci de venir à ce micro, Jean-Marc. J'ai dit, hein, vous êtes producteur de pièces de théâtre, mais également d'artistes comme Alex Lutz ou Nicolas Canteloup, entre autres. Vous êtes également propriétaire de plusieurs salles, comme Bobino, Le Point Virgule, le Théâtre Antoine. Vous partagez cette propriété avec Laurent Ruquier.
Exactement.
Au Théâtre Antoine. Est-ce que le théâtre se porte bien, qu'il soit à Paris, en tournée ou partout en France?
Moi, je crois que le théâtre se porte bien à partir du moment où on a de beaux projets Et on parlait de Tartuffe à l'instant, mais c'en est l'illustration. Quand il y a de beaux projets, le public est là. Et c'est à nous, directeurs de théâtre, pardon, privé ou public, c'est à nous d'avoir cette exigence permanente d'avoir de très beaux spectacles. Parce qu'il faut qu'il y ait une urgence pour le public de venir nous voir, parce que, ben, par exemple, Tartuffe, c'est pour 3 mois. Mm-hmm. Et si le spectacle, il n'est pas à la hauteur, s'il n'est pas exceptionnel, ça ne donne pas envie. Et quand on a travaillé avec Michel Faux sur Cactus, avec Catherine Fraud, il y avait là aussi cette urgence de venir, parce que c'était un moment unique, Catherine sur scène avec Michel. Et je crois qu'il faut qu'on sache créer des moments exceptionnels. Voilà, donc ça se porte bien
ça peut passer.
Si on fait bien notre métier.
C'est ça. Et votre métier, c'est la programmation, c'est le casting, c'est ce rendez-vous qui fait qu'il y a une alchimie qui est à la fois
notre métier, malicieuse. C'est être en permanence extrêmement vigilant pour essayer de trouver le bon projet, sachant qu'il n'y a pas de recette miracle, qu'autrement on serait tous milliardaires. Mais c'est savoir, imaginer des projets différents, des projets originaux. C'est pas simple et c'est à la fois tout le sel de notre métier.
Qu'est-ce qui définit maintenant le théâtre privé du théâtre public, puisque Molière peut être...
Ce sont des modes de financement qui sont différents, le théâtre public et le théâtre privé.
Mais dans la programmation ou dans le casting?
Elle est différente parce que la programmation du théâtre public est beaucoup plus courte, c'est à peu près une trentaine de dates à chaque fois, ce qui est dommage d'ailleurs, et je pense que notre pont à l'avenir doit partir de là, c'est que les exploitations dans le public sont très courtes, alors que nous, dans le privé, on offre davantage de temps. Donc c'est un mode de financement et d'exploitation qui est différent. Et puis c'est une part très belle à la création dans le théâtre public où c'est vrai qu'il y a beaucoup de centres dramatiques nationaux avec à leur tête des directeurs qui sont des metteurs en scène, donc qui ont de cesse que de créer de nouveaux spectacles. Voilà, c'est un peu ça la différence.
Quelle a été votre formation pour
moi? J'ai fait droit et Sciences Po, donc il y a pas grand rapport. Voilà, il y a pas grand rapport, mais
vous aviez qui comme prof? On en parle pour le théâtre.
Écoutez, non, j'avais pas de prof particulièrement marquant. Je crois que ce qui m'a guidé, c'est un petit peu de curiosité, et puis ensuite l'envie d'entreprendre, et puis surtout le fait de frémir quand on a des beaux projets chez nous. Qui me guide.
Et est-ce que vous avez à cœur aussi de continuer à rendre le théâtre accessible, de démocratiser l'accès à la culture par une politique tarifaire? Comment ça marche
théâtre,
pour vous?
Le théâtre, il est profondément démocratique et démocratisé.
Le prix d'une place, c'est pas un rapport démocratique, c'est un rapport de porte-monnaie.
Je répète, puisque vous m'y invitez, le théâtre est profondément...
Vous ne m'écoutez pas.
J'attends la réponse.
Il est profondément démocratisé, puisque vous savez, aujourd'hui, le tarif moyen d'une place dans le théâtre privé, il est à 29 euros. Ça, c'est les chiffres de l'année dernière. Mmh. Et il y a un certain nombre de sites où vous pouvez avoir des prix à tarif réduit. Et en plus, les théâtres privés, là, pardon, je parle des théâtres privés, mais les théâtres privés pratiquent une politique à 10 euros. Pour certains soirs de la semaine, pas le week-end, mm-hmm. qui est un moment où il y a beaucoup de monde, mais où il y a un petit peu de monde, un moins de monde en semaine, on pratique des tarifs à 10 euros pour un petit quota de place pour des étudiants qui ont moins d'argent. Donc vraiment, cette question est une fausse question.
Alors, mais attendez,
places à 10 euros, est-ce que les comédiens jouent aussi bien?
Oui, les comédiens.
Jean-Marc Dumontet, en revanche, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça au sens où je pose une question. Il n'y a pas malice dans ma question, je dis simplement, est-ce que vous avez à cœur.
Je ne pense pas du tout qu'il y a malice.
Bah si vous finissez par me dire que c'est pas une bonne question, la question se pose.
Non, je pense qu'il n'y a pas. Non, pardonnez-moi. Je pense qu'il n'y a pas.
Il y a une charge émotionnelle.
Non, je pense que la question ne se pose pas parce que la réalité aujourd'hui avec Internet et avec la politique mise en place par le privé, mais depuis des années, fait que le théâtre aujourd'hui est accessible. Ce qui est important, c'est créer du désir.
Mais ce qui est important, c'est de dire aux gens que c'est accessible. Non, c'est juste pour ça que je vous pose la question, et de dire qu'il y a des places à 10 euros.
Vendredi soir, j'étais voir Kerry James au théâtre du Rond-Point, un spectacle qui s'appelait À Vif, qui est un magnifique spectacle.
Très beau spectacle.
Et ce qui était génial, c'est que il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes, parce que il sait créer un désir et que le thème qu'il abordait crée un désir. À nous de créer du désir.
Et puis, le prix des places de concert. Le prix des places de concert est souvent très élevé.
Le théâtre est
assez démocratique, je suis d'accord avec
Michel Faux. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'une place pour voir Céline Dion, ça coûte beaucoup plus
cher. Attendez, on va expliquer, il y a un malentendu. Moi, je pose une question.
Une place pour un match de foot.
Bien sûr, Michel Faux. Sauf que j'aimerais bien parler, sans qu'on m'interrompe, s'il vous plaît. Je pose simplement...
Je croyais qu'on était invité.
Mais vous pouvez être invité, j'ai le droit de parler.
Vous êtes belle, vous êtes belle.
Je vous remercie, Michel Faux.
Je ne suis pas réducteur, Michel.
J'ai le droit quand même de juste poser cette cette question parce que je crois que dans la tête de beaucoup de gens et peut-être de beaucoup d'auditeurs, le théâtre ce n'est pas pour eux parce que c'est excessif. Donc c'était important, et c'est pas une amoureuse de théâtre que vous allez dire ça, de dire que on peut aller au théâtre sans forcément que ça coûte
comme l'opéra.
Voilà, une fortune. Mmh, et c'est je pense que c'est aussi votre rôle en tant que patron de théâtre privé de rappeler qu'il y a des choses mises en place pour que le public puisse venir sans se ruiner.
Leïla, je voudrais juste quand même parce qu'on va plus avoir beaucoup de temps demander à Jean-Marc Dumonté quel est l'intérêt de ces hommes d'affaires. Je pense à François Pinault, je pense à Jacques-Antoine.
François Pinault, il s'est un peu retiré de Marigny. Il était à Marigny, il s'en est un peu retiré.
Voilà. Jacques-Antoine Grandjean.
Jacques-Antoine Grandjean, qui est largement engouffré.
Marc Ladret de la Charrière, qui est également engouffré. Pourquoi des fortunes, des milliardaires s'intéressent au théâtre? Est-ce que c'est simplement du mécénat ou est-ce que c'est une nouvelle forme d'intérêt ou d'éden pour eux?
Alors, premièrement, c'est pas une mauvaise chose. Parce que ça permet de mettre des moyens dans les théâtres. Donc c'est une bonne chose. Deuxièmement, leurs motivations, elles sont diverses. Certaines, c'est par goût. D'autres, c'est par souci d'avoir une vitrine qui est assez valorisante et agréable. Parce que posséder un théâtre, inviter dans son théâtre, c'est quand même pas désagréable. Ouais. C'est un peu chic. Et puis certains, Marc Ladret de la Charrière, je crois, c'est une véritable envie, vraiment, d'avoir un groupe et de s'engouffrer dans ce métier-là et d'en faire un autre de ses métiers. Avec des synergies dans son groupe.
Voilà, ça a changé profondément, par exemple, le théâtre privé, depuis que c'est quelques noms et peut-être d'autres encore.
Ça fait la fortune d'un certain nombre de directeurs de théâtre privé qui ont vendu très cher à des grands groupes leur théâtre. Ça, c'est le premier point.
Mais à quel point ça fait du bien aujourd'hui au théâtre? C'est-à-dire, ça donne des moyens?
Je crois que ça fait ni bien ni mal, mais dans une économie qui est compliquée, ça donne une certaine sérénité à des théâtres. Pour lancer des grands paris.
Alors quand vous parlez justement d'économie compliquée, est-ce que, on va pas spécialement parler du Tartuffe, mais je repense à ces costumes faits sur mesure, à ce décor, à cette distribution de haute voltige, on se dit, il doit y avoir un coût de production pour fabriquer un spectacle très élevé. Est-ce que le raisonnement d'un directeur de théâtre est de se dire, il faut que je rentre, entre guillemets, que j'amortisse, ne pas perdre d'argent, je ne parle pas de gagner, hein, déjà, ne pas perdre d'argent dans une durée qui est très précise, où il y a des exploitations comme, par exemple, des diffusions à la télévision ou
Alors,
des captations
contrairement à une légende, les théâtres privés ne sont pas moribonds. Ils gagnent globalement leur vie. Plus ou moins. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on est des entrepreneurs privés. Donc, quand vous lancez un projet, il faut qu'il soit cohérent. Et dans tous les théâtres, les projets sont cohérents, y compris le Tartuffe. Oui, il y a un coût parce qu'il y a un petit peu de monde sur le plateau, mais enfin, il n'y a pas non plus 50 acteurs. Mmh. Et puis, il y a des décors qui sont un peu chers et puis des costumes qui sont un peu chers. Mais tout ça est assez raisonnable avec des recettes en face, avec une durée d'exploitation, avec une 100 ou 120 dates, je ne sais pas exactement, mais qui permet d'amortir le spectacle. Vous savez, on n'est pas... on peut lancer des grands paris sans être des gens totalement fous.
Et quand il y a des coûts, entre guillemets, quand il y a des grandes stars de cinéma, quand il y a des clashs qui sont présentés, c'est le retour d'une telle ou d'un tel au théâtre, avec une énorme communication faite autour, que ce soit des Daniel Auteuil ou Alain Delon ou des autres.
Vous savez que notre principale communication, elle est gratuite. Parce qu'elle est chez vous, elle est dans les médias. Et que quand vous avez effectivement une grande star, elle fait la tournée de tous les médias. Et ça, c'est une communication qui n'est pas très coûteuse.
D'ailleurs, si on peut avoir un petit retour, exactement. Aussi, un petit pourcentage, je remarque.
Donc voilà, ensuite, bah, évidemment, quand vous avez des très grandes stars qui sont sur vos plateaux. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'accueillir Fabrice Luchini. Bah, c'est un coup. Gérard Depardieu qui est venu au Théâtre Antoine, c'est un coup. Mais on le sait, on l'a budgété. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose d'assez classique et assez traditionnel. Donc, on essaye aussi d'être vigilant économiquement. On doit créer du désir et puis on doit faire en sorte que ce désir rentre dans un cadre économique à peu près astucieux.
Michel Faux, il y a encore une grande différence, un fossé entre public et privé? C'est encore la guerre entre les deux ou finalement c'est très complémentaire et...
Plus, c'est un débat qui...
C'était en 2013 que Le Figaro avait titré « Guerre
Oui, mais c'est un débat public qui concerne vraiment un petit milieu théâtral parisien. Quand même. C'est pas, le vrai public ne comprend pas trop ce qui se passe. Moi, j'ai toujours navigué entre les deux. Là, après, je vais reprendre un nouveau tour de champ au Bouffe du Nord, qui est un théâtre subventionné. L'année dernière, je joue au Rond-Point. Moi, je pense que ce qui est important, c'est En effet, c'est la qualité du spectacle. Moi, ce que j'aime dans le théâtre privé, c'est qu'on joue longtemps. Contrairement maintenant, dans le théâtre public, parfois, ils jouent 3 semaines, voire 20 fois. C'est effroyable.
C'est trop peu. Ouais.
Mais après, ils parlent de théâtre populaire, mais le vrai public n'a pas le droit de. Et moi, j'ai rencontré un public très mélangé dans le privé, à Antoine ou à Port-Saint-Martin. Il y a vraiment des jeunes, des vieux, des classes sociales très, très mélangées. Beaucoup plus, par exemple, qu'au théâtre de l'Odéon où j'avais joué, où le public là est terrifiant. C'est des bourgeois snobs du 6e qui lisent Télérama. C'est terrifiant.
Ils ont leur... Ah oui,
c'est terrifiant.
Tellement d'accord avec vous.
Tandis que le public du privé est beaucoup plus mélangé.
On va reparler du Tartuffe pour la première fois. Vous jouez avec Michel Bouquet. C'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de Michel Bouquet. Mais c'est vrai que les angles de communication, c'est-à-dire pour la première fois réunis sur scène, ça vous avez mis du temps pour y arriver. Ça a été. Vous en aviez envie, j'imagine, depuis très longtemps.
Oui, mais j'osais pas. J'étais bête. Hein. Comme quoi, il faut faire ce qu'on a envie de faire. J'osais pas. Et puis, comme il est venu voir mes spectacles, qu'on a parlé beaucoup, j'aurais dû oser plus tôt.
Faut pas avoir peur de demander.
Absolument.
Pour trouver certaines choses.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Vous êtes bien dans la bande originale sur France Inter. Voici Juliette Armanet et son Cavalier seul. Cavalier seul de Juliette Armanet dans la bande originale.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Pour Michel Faux, une cascade de questions, une série de questions courtes avec des réponses courtes. Leïla, la première.
Michel Faux, à quelle époque auriez-vous aimé vivre ?
Entre les deux guerres.
Parce que
l'époque du cartel avec du linge UV, Pitof, tout ça. Mais peut-être que ça devait être l'enfer, la vie à cette époque. Mais la vie artistique entre les deux guerres est très riche en peinture,
extraordinaire.
En musique très audacieuse.
Mm-hmm. Albert Algou.
Une opérette que vous n'avez pas montée, que vous aimeriez monter.
J'ai un projet de monter La Belle Hélène d'Offenbach. Ce qui me plaît, c'est que c'est une parodie d'une tragédie antique, en fait. Donc c'est tout ce que j'aime.
Thomas Wiesel.
Quand vous dites des alexandrins pendant des heures sur scène, ça fait bizarre de parler normalement, ça.
C'est très difficile de, oui, c'est très difficile d'aller, de revenir dans la vie active. Mais en même temps, l'alexandrin est vraiment partie du langage familier, de la musique du langage, en fait.
Moi, je me suis souvent.
Daniel Morin.
Vous avez déjà giflé Michel Bouquet?
Ça va pas.
Non,
mais ça va pas.
Non, je lui ai embrassé la main, par contre.
Voilà. Putain, malade.
C'est pas nouveau.
Ça existe, des metteurs en scène qui giflent.
Bien sûr. Bah oui.
C'est vrai?
Bah oui.
Mais quoi, dans le jeu, vous voulez dire, ou
non,
pour les punir?
Bah oui. Si, on disait que Maurice Pialat ou Zulaski faisait ça. Mais...
Bon,
pardon. Bon, Nagui, faites pas l'étonner, hein, les producteurs qui giflent les gens.
Je pense qu'aujourd'hui, qui que ce soit lèverait la main sur... ça saurait.
Donc c'était mieux avant.
Ça saurait, ça
dommage qu'il n'y ait pas l'image, parce que là, vous voyez Nagui qui se serre les mains pour pas mettre des gifles les gens.
parce que j'ai froid dans ce studio. Leïla.
Michel Faux, comment vous manifestez votre amour, votre attachement à un comédien? Ou une comédienne?
La douche.
avec la flûte enchantée.
J'essaie de les mettre en valeur. J'essaie qu'ils soient beaux, d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça qu'il y a toujours des beaux costumes. Ils sont toujours très bien éclairés. Ouais. Ils sont toujours mis en valeur. Je les oblige à jouer face publique, même, pour qu'on les voit, pour qu'on voit vraiment leur visage. Qu'il y ait un gros plan sur eux, quoi. Non, je pense que je suis un amoureux des comédiens. D'ailleurs, les comédiens veulent toujours retravailler avec moi, donc c'est bon signe. Mm-hmm.
Daniel Morin.
Bah, Michel Faux, votre geste de beauté du matin.
De mettre de l'eau glacée sur mon visage comme John Crawford.
Le meilleur de la bande originale, ça continue jusqu'à 12h30 avec Judith Magre et en live Steven Wilson. Mais tout de suite, ce sont les infos. Le meilleur de la bande originale, ça continue avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, Thomas Wiesel, l'info maltraitée par Tanguy Pasturo et notre invité Judith Magre et en live Steven Wilson. Le meilleur de la bande originale, la suite, c'est maintenant. Au théâtre du Lucernaire. En fait, il faut expliquer quand même tous ces rires, ces gloussements entre,
c'est
Daniel,
qui devient folle.
Entre Daniel Morin et Leïla. C'est que nous avons sur la table, nous avons chacun un petit bouton du volume de notre casque. Et pendant que, pendant que Leïla se mêle comme nous tous d'ailleurs aux applaudissements de pour accueillir notre invité, ah oui. Daniel Morin met son volume à fond pour lui faire péter les tympans. Et ça fonctionne assez bien d'ailleurs, je dois le dire.
Elle saigne des tympans.
Et c'est le cas depuis 4 ans.
Mais j'avoue que c'est moi qui ai commencé cette petite guerre, c'est moi qui ai cette idée terrible, la première. Donc j'assume maintenant.
Le match au retour.
Oui, j'assume.
Voilà, très bien. Est-ce que nous pouvons parler 2 secondes avec
Judith?
Oui, bien
sûr.
C'est gentil, merci. Ouais, Judith Magre, merci d'être là au milieu de cette bande qui n'écoute absolument pas ce qui se passe. Judith est au théâtre du Lucernaire. C'est l'hypocrisie la plus totale, tu vois.
Oui, t'es
d'accord. Merci.
Dans ce thriller de l'esprit, c'est ça la définition qui est donnée à ce texte.
Vous êtes qui a donné cette définition?
C'est celui qui a fait l'affiche, je pense.
Bon,
oui, ouais. Thriller de l'esprit, ça ne vous plaît pas?
L'affiche, c'était l'apostrophe, pas l'affiche de Linagui, mais l'affiche du spectacle.
Oui,
on va croire que GNB...
Non, j'ai pas de fiche. Non, c'est oui, l'affiche voilà. Du théâtre. Oui, oui, voilà. C'est vous. Enfin, c'est eux. Enfin,
oui.
Ça a l'air de vous plaire. Okay,
si.
On est. Ils ont quand même raison. Tout cette pièce-là, ce fait divers, cette manière dont l'interrogatoire est porté par Jean-Claude Le Guay et qui va dans les méandres de l'esprit de cette personne qui est assassinée, c'est ça qui est intéressant, plus que le fait divers en lui-même.
Les méandres, c'est toujours intéressant. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous parle de la pièce? On vient déjà d'en parler pendant une heure.
Ah, mais non, mais.
Vous êtes quatre pieds, Nagui.
Ouais, je voulais qu'on en parle plus parce que ce qui me plaît dans tout ça, c'est ce que l'on croit être la chose la plus intéressante, l'enquête qui est faite. On sait d'ailleurs pas si c'est un journaliste, un juge, un commissaire,
oui.
ce monsieur qui pose des questions.
Moi non plus, je sais pas.
Très ambigu, ce personnage.
Non, mais réellement, moi, je sais pas. Ni moi dans la pièce, ni moi.
Oui, vous posez la question en disant, mais j'ai déjà tout dit au juge, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Et puis alors, vous, au moins, vous n'avez pas demandé. Et alors, vous l'avez mis la tête?
Non, mais non. Parce que non. C'est
fuité.
C'est pas tant ça qui est intéressant.
Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est le rapport entre vous et l'interrogateur.
Oui, et alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais.
Ce jeu de chat et de souris. Il faut donner envie aux personnes d'aller voir cette pièce de théâtre. Donc
Oui, c'est à vous à le faire, parce que moi, ça...
C'est ton boulot, Nagui.
Moi, ça m'est très difficile
de
mettre en valeur et
rien,
de mettre la pièce en valeur.
L'important, c'est de savoir que c'est Marguerite Duras qui a tué le petit Grégory. Ça,
mais non
mais attendez, j'ai écouté.
Non, mais alors si, il y a une chose qui peut intéresser les gens, c'est qu'à partir de choses quand même assez sinistres, il rit. Enfin, je ne dis pas qu'ils ne vont pas avoir du fait d'eau, il n'y a pas des éclats de rire à toutes les phrases, mais vraiment, il y a de l'humour.
Oui, mais...
Puis, c'est important.
Votre personnage semble un peu éthéré dans ses réponses, quand tout d'un coup, elle se met à nous parler de la menthe anglaise, par exemple, qu'elle nous dit qu'elle aime en manger, qu'elle trouve ça bien. Elle fait face à une forme de stupéfaction de son interrogateur qui, lui, essaye de comprendre pour elle les raisons du crime, en fait. Donc, ce que je trouve assez drôle dans le décalage, c'est ça, c'est ce côté crime abominable et femme, comme ça, qui pense à son jardin, qui se demande quand est-ce qu'elle aura de la visite pour voir des gens. C'est un personnage qui est assez troublant. Et ça peut susciter le rire, du coup, ce décalage.
Écoutez, si je trouble, tant mieux. Non, mais... Vous dites, elle attend de la visite.
Elle attend de parler, elle attend...
Elle voudrait communiquer, elle voudrait parler. Et avec une sourde muette, c'est très difficile de parler. Surtout quand on ne connaît pas le langage des sourds.
Ah, oui,
non, la menthe anglaise de Marguerite Duras avec le monstre sacré. Donc, non, qu'est-ce que je fasse? Marguerite Duras et Judith Magre, les deux sont au théâtre du Lucernaire pour la menthe anglaise. Il est 12h12 sur Internet.
Loupé.
Vas-y, t'en dis pas sur
la bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Tanguy Pastureau, ce week-end donc à La Courneuve, c'était la fête de l'humain.
Oui, c'était la foire à la merguez et à la tireuse à bière avec des Zic des Cathy qui ont fait le Larzac et pour qui Macron, c'est Satan et Brigitte son suppôt. Mais il y avait aussi des jeunes qui s'en tamponnent du communisme comme Nolwenn Leroy de sa première biture au Chouchène, soir où elle a vraiment entendu le renard et la belette chanter et qui viennent eux pour les concerts parce qu'il y avait du lourd, notamment Iggy Pop, 70 ans, donc 40 passés à sniffer de la colle et qui est toujours debout, torse poil sous 9 degrés, alors que moi si j'oublie une fois mon cache-colle en août, je chope la crève et je cause comme Daniel Morin avec une voix de cerf en chaleur. Il y avait aussi Renaud, que ses amis appellent Bob l'éponge, parce que tout ce qui est liquide il absorbe. Tous les 5 ans, on le retrouve à moitié clamsé, puis d'un coup, il se relève, fait un album plus une tournée de 200 dates et il se recouche. Il est increvable. Si Kim Jong-un nous lance une bombe H, de vivant, il restera juste Renaud qui sortira d'un bâtiment venant de s'écrouler en faisant ta-da-da. Plus Drucker, qui est immortel, pour l'interviewer, et 2-3 scorpions. Alors les politiques de gauche ont répondu présent à l'appel de Pierre Laurent du PCF, le dernier communiste, qui à l'issue de la fête a été remis dans sa vitrine au Muséum d'Histoire Naturelle dans la section Espèces disparues à côté du dodo. Alors est venu Benoît Hamon, le tueur du PS, qui a fait au socialisme ce qu'a fait Jack l'Éventreur au secteur de la prostitution. Il a présenté à la foule ivre son nouveau parti, intitulé Mouvement du 1er juillet, parce qu'il l'a lancé le 1er juillet. C'est un créatif. Ainsi postule chez Publicis, les types lui feront une haie d'honneur avec Flonflon et Kirpèche dès qu'il aura passé l'accueil. Sont aussi venus les Insoumis, dont Alexis Corbière, responsable de l'office de tourisme du Venezuela, mais manquait Mélenchon, le Mao Tse-Tung marseillais, qui était à La Réunion. Il s'est dit ras-le-bol de la flotte du pain mouillé et des cocos au téton flasque. Moi, je veux danser le Maloya au soleil, la cervelle bouffée par le rhum arrangé. À moi les MST.
Alors justement, cette absence a été critiquée par le premier secrétaire du Parti communiste, évidemment.
Mais oui, parce que Mélenchon, c'est la seule star de gauche. C'est comme si pour la reformation de téléphone, Aubert Bertignac et Kolinka avaient dit non et que Corinne s'était retrouvée seule à Bercy avec juste un triangle. La fête de l'UMA 2017, c'était Pierre Laurent, Hamon et Marie-Georges Buffet qui matent le concert d'Iggy Pop en se demandant s'il va exhiber son sexe en fin de vie, comme à la grande époque.
Bah ouais.
Si la loose se dansait, là, on aurait eu une grande gigue. Pierre Laurent, dans un discours, a donc dit « Il aurait mieux valu que tout le monde soit là. » Alors tout le monde, c'est Mélenchon. Il vit son absence aussi mal qu'un amoureux de la musique baroque, le succès de Maître Gims. À La Réunion, Mélenchon, qui suit l'actu, surtout quand ça parle de lui, parce qu'il a l'ego gros comme une pastèque transgénique, lui répond « Je peux pas être partout. » Il y a 6 mois, il squattait en même temps 17 salles avec son hologramme, mais là, fini, il est repassé à Windows 2.0. C'est comme si J.J. Abrams, réalisateur de Star Wars, disait « Terminez les effets spéciaux, l'épisode 8, ce sera Chewbacca qui discute dans une brasserie avec ses potes, comme dans un film de Sautet. » Alors en fait, Mélenchon s'en fiche du PC. Il est 20 fois plus puissant. Il est dans la position de Nagui quand le boss de TF1 l'appelle et qui lui répond « Mon pote, je suis leader ménagère en access tous les soirs et en radio, j'ai Pastureau. Alors ton contrat, tu le proposes à Sophie Favier et tu m'oublies. » Alors la fête de l'UMA sans Mélenchon, c'était triste, comme dans une soirée haute où il n'y aurait eu que des eunuques. Benoît Hamon a filé 500 euros à Pierre Laurent pour qu'il rejoigne son mouvement du 1er juillet. Laurent a dit « C'est pas assez », donc Hamon lui a donné sa voiture, son appartement et ses 2 enfants. Laurent a dit « Bon, d'accord, mais ne dis à personne que celui qui a adhéré, c'est moi. » Quant à Mélenchon, il est au soleil, il va revenir bronzé comme une vieille cagole bolivarienne. Et il a bien raison.
Merci, Tanguy Pastureau.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Tout ce qui se passe autour de l'actualité, d'ailleurs, ça vous fait quoi, Judith Marguerite? Est-ce que vous vous intéressez à l'actualité? Est-ce que vous lisez
J'écoute les nouvelles à la télévision, j'achète les journaux. Pas beaucoup les quotidiens, plutôt les hebdos. Et je les lis de A à Z. Ah. Alors, je commence par lire les trucs dans les choses qui m'intéressent plus directement. Le cinéma. Puis alors après, je passe
à la politique.
Alors là, je dois dire que l'économie, ça n'en parlons pas. J'y comprends rien, j'y connais rien. Mais il n'y a rien à faire, il faut que je lise. En me disant peut-être que tout à coup, je vais découvrir des trucs, je vais m'instruire. Bon, le résultat est nul, mais enfin, quand même, je lis.
Avez-vous le sentiment d'être une artiste engagée? Est-ce que
pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais moi, je suis pour que tous les gens soient bien et puissent bouffer, puissent dormir. Je trouve que la vie en France, c'est vraiment mieux que dans la plupart des pays du monde, à part que même en France, il y a des gens qui sont très malheureux.
Mais de signer par exemple des pétitions, de mettre votre nom en bas d'une liste pour telle ou telle cause, ça vous est déjà arrivé?
Ça m'est arrivé pour l'histoire des bonnes femmes qui avortent. Enfin, oui, parce que c'est Simone de Beauvoir, que je connaissais bien à cette époque-là, qui m'avait demandé de signer.
Bon, les 343.
Ah bon? C'est
ça,
je me rappelle pas.
Ça s'appelait, oui. Ouais. Non, ça c'était le surnom qui avait été donné.
Ouais, derrière, ouais.
Mais c'était...
Tu peux l'appeler Nagui.
Mais c'était simplement le...
En 43?
Les 343.
Ah, il y avait 300... Parce qu'en 43, j'ai dit...
Non, pas en 43.
Les 343, ben
il y avait 343... Une personne, femme, qui avait signé, qu'elles avaient eu, elles aussi...
Qu'elles avaient reconnu avoir eu recours à l'avortement.
À l'avortement. Et,
ça te fait rire.
Et donc, elles se disaient hors la loi, puisque à l'époque, c'était hors la loi de le faire. Oui. Et Catherine Deneuve en faisait partie.
Non, mais il y avait un monde 343, c'est pas mal quand même.
C'est énorme, ouais, ça avait été publié dans le Nouvel Obs. Et c'est vrai qu'ensuite, on avait qualifié cette liste-là de 343, entre guillemets, salope, mais c'était pas ainsi. En
c'était
tout cas,
pas l'intitulé original. Non, ouais.
Mais ça peut devenir un terme tendre, salope.
Je suis totalement d'accord avec vous.
Oui, c'était de l'autodérision.
Exactement. Exactement.
On s'est bien dit.
Mais en même temps, ça fait progresser. Donc c'est
l'engagement.
Faire avancer la société, ça fait partie.
Oui, enfin là, j'étais tout à fait d'accord pour signer ce truc-là. Et puis voilà. Depuis, on ne m'a jamais demandé d'en signer. Bah alors j'en ai pas signé, si on ne demande pas, je signe pas.
Moi. Très bien, non, mais je voulais pas vous embêter non plus. Voici le rêve de Daniel Morin.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Attention.
Quoi?
Oui, attention, amis retraités précaires, à partir du 1er octobre, votre vie va changer et pourtant, il faut raison garder. Pourquoi tant de panique? Pourquoi cette alarme? Eh bien parce que le gouvernement a décidé d'augmenter le minimum vieillesse de 0,8%. Alors oui, je sais, ça donne envie de faire le con, ça donne envie de devenir dingo, de faire des projets de maboule, ça donne envie de claquer son pognon en voiture, voilà, ça donne envie de mener une vie d'animateur télé, mais là, attention, je dis Achtung. Oui, je vous en conjure, ne commettez pas d'imprudence, n'allez pas bouffer d'un seul coup cette somme incroyable qui va vous tomber du ciel, pensez à consommer de façon raisonnable, c'est quelques 5,50€. Ne les flambez pas d'un coup, voilà, pensez en mettre une partie de côté. Cette info qui est tombée m'a littéralement bouleversé à un point que j'en ai fait des rêves. J'étais dans une maison de retraite et la nouvelle de la revalorisation tombe. Folie dans les couloirs de l'hospice, tout le monde se voit vivre une vie de millionnaire. Et que Barnabé, 109 ans, réserve déjà 2 nuits au Ritz pour séduire Madeleine, 113 ans. Et que Marie-Odile, 101 ans, une gamine, file en nuisette chez Cartier pour s'acheter un diamant de 9 carats. Et que Ferdinand, 147 ans, sort de son coma pour lancer son fameux cri de satisfaction. Ah, avant de replonger dans le confort douillet de son coma feutré. Cette atmosphère de liesse populaire m'enchantait et me perturbait à la fois. Pour y voir plus clair, j'ai été voir un de mes maîtres à penser. Bonjour, maître Ganache.
Garde à vous ! Bravo ! Qu'est-ce que tu veux ?
Maître Ganache, j'ai rêvé que j'étais en maison de retraite et qu'à l'annonce de l'augmentation des petites pensions, tout le monde, moi y compris, on devenait dingue et qu'on faisait des projets de fou en anticipant le pacte l'avenir.
Et ça va représenter combien, cette augmentation ?
En gros, 5,50.
Waouh ! Sacrée somme !
Je sais, d'où l'excitation collective.
Quand ce genre de choses arrive, il faut être préparé. 5,50€ sur un an, ça va encore. Tu te fais plaisir, tu te fais des cadeaux, à tes proches, tu t'éclates, ça va, ça se gère. Mais 5,50€ par mois,
ouais.
C'est une avalanche de fric pas facile à gérer. C'est un peu comme gagner l'euro-million. Du jour au lendemain, ta vie change.
Maître, vous pensez qu'il faudrait mettre en place pour les retraités qui vont bénéficier de cette augmentation une cellule d'accompagnement psychologique comme ils le font à la Française des Jeux pour aider les gagnants?
Ah, ça me paraît indispensable. Prenons un exemple simple.
Oui, bah simple alors parce qu'il y en a Guy.
Avec 5,50€.
Oui.
Si tu deviens fou et que tu dépenses tout, oui, tu perds les pédales.
Oui, genre quoi?
Bah, genre tu claques tout comme un con en t'achetant 2 paquets de Danettes et 2 paquets de Pépito.
Waouh, le malade.
Eh bien, si tu bouffes tout d'un seul coup, ouais. C'est crise de foie, dysenterie, overdose de glucose, accélération cardiaque et infarctus.
Oui, mais tu te régales.
Oui, tu te régales. Mais tu joues avec le feu, Morin. Moi, je dis qu'il faut être raisonnable. Avec 5,50€, tu te fais plaisir. Avec une boîte de cachou à 1,80€ ou un paquet de pastilles Vichy à 1,50€. Et le reste, tu fais l'écureuil. Tu le places sur un livret A ou une assurance vie.
Vous avez raison, maître Ganache. Il faut raison garder.
Mais oui, sinon ça devient n'importe quoi. Regarde des gars comme Nagui ou Balkany.
Ah, c'est les mêmes. Hey,
c'est des types qui dépensent des 10,
quoi,
des 20, hein, voire des 30 euros par mois
les dingos,
en babioles, cocaïne et Viagra. Et au bout du compte, est-ce qu'ils sont plus heureux?
Non. Non, vous avez raison, ils sont misérables.
Leurs poches sont pleines, mais leurs regards sont vides.
Oh, c'est beau ce que vous dites. Merci, maître Ganache. Voilà, les amis. Alors, rêver de dépenser des fortunes, c'est cool, mais le bonheur n'est pas là, le bonheur, avec 5,50 qui vous tombe dessus, comme ça, sans prévenir. Non, le bonheur, il est dans le partage, la solidarité, l'entraide, la bienveillance. Il est dans les petits gestes du quotidien qui vous rapprochent les uns des autres, sans forme d'intérêt quelconque, mais avec la seule envie d'apporter une aide. Transmettre, c'est aimer, aimer, c'est donner. Donner, c'est aussi recevoir. Voilà ce que c'est le vrai bonheur et l'épanouissement. Non, je déconne, le bonheur, c'est le pognon. Merci, à demain.
Merci, Léon.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Judith, je me demandais, quand vous parliez tout à l'heure des gens que vous voyez dans la rue, récemment, vous aviez déclaré dans Paris Match que vous étiez obligé de continuer à travailler pour gagner votre vie.
Ben oui, comme beaucoup de gens.
Oui, mais c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que vous touchiez, je ne sais pas, une pension, quelque chose. De... Non. Comment ça marche?
5,50 € de plus
par
mois.
Mais c'est vrai que quand on entend ça, c'est terrible, parce qu'on parle de précarisation terrible.
Vous n'avez pas économisé dans votre vie ou gagné assez, en tout cas, pour...
Non. Et j'ai jamais... Jamais un homme ne m'a entretenu, ce que je regrette beaucoup.
Il est encore temps.
Ça aurait été formidable. Bah, s'il avait été beau, charmant, intelligent, etc., ça aurait été très bien.
C'est une licorne, ça s'appelle une licorne.
J'aurais été beau, des très intelligents, des charmants, des tout, mais ils ne m'ont pas entretenu.
Oui, oui.
Mais bon, tant pis. Hein.
Et pour l'avenir, vous ne vouliez pas dire tout à l'heure la pièce, mais je crois que j'ai trouvé.
Non.
Alors on ne le dit pas.
Non.
Vous êtes sûr?
Non, oui, je suis superstitieuse.
Ah, d'accord. Alors,
peut-être que vous parlez même pas de la même chose.
C'est vrai, peut-être.
Non, mais si on le mentionne et que c'est la même chose.
Et oui, alors.
Est-ce que tu as un théâtre, au moins?
Oui, j'ai un théâtre.
Ah. Non.
Alors, je ne le dis pas.
Judith, croise les doigts. Hein,
d'accord. En plus, ça a l'air très beau, hein, Judith.
Oh, mais c'est formidable. Ça va être formidable. Je reviens. Ça, alors là.
C'est quoi?
Non, dites rien.
Non, j'ai dit rien.
Mais non.
Ça doit être dit.
Je sais.
Non.
Si, vous allez le dire.
Où est la tête?
Non, c'est pas janvier.
Dites rien, Judith.
Non, mais c'est pas janvier.
Voilà.
C'est pas janvier. Où est la tête? Et si je demande où est la tête, ça, j'ai une réponse ou pas? Non, toujours pas. Non, ça non plus. Ok, on dira rien.
France Inter, la bande originale, le best-of. Avec Nagui.
Prince, Sign of Time par Steven Wilson dans la bande originale.
French skinny man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Hurricane and it ripped the ceiling off a church and killed everyone inside. You turn on the telly and every other story's telling you somebody died. Sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, yet we're sending people to the moon. September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse, it's June. Sailing now, when a rugged ship explodes and everybody still wants to fly. Some say man ain't happy truly until he truly dies. Maybe make a speech, Star Wars fly, neighbors just shine it on. But if the night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Times. Silly no, when a rocket ship explodes and everybody still wants to fly. Some say man ain't happy truly until he truly dies. Oh, why, times. Sign of the time, mess with your mind, hurry before it's too late. Let's fall in love, get married, have a baby, call him Nate if it's a boy.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour nos auditeurs pacifistes et humanistes qui ont été très très choqués par l'ultra-violence de Judith Magre. En même temps, qui n'a jamais eu envie de décapiter sa cousine ? Ou même un petit collègue. Désolé pour Judith Magre, qui a découvert ce matin que Nagui s'était opposé très très régulièrement à sa venue dans l'émission. Il est comme ça l'Égyptien, il a ses têtes. À savoir qu'il déteste aussi Depardieu, Macron, Christophe Maé, l'abbé Pierre et surtout les gosses. Désolé pour Leïla qui a été... tout simplement sali par l'immonde Suisse Thomas Wiesel, franchement, en 3 ans d'émission, ouais. Moi je ne me serais jamais permis ça. Là, pareil. Je suis choqué, choqué. Un peu excité, mais choqué.
On vous souhaite une bonne journée, c'était le meilleur de la bande originale. C'est fini pour aujourd'hui, mais nous serons là demain à 11h, évidemment, même endroit, sur France Inter. En attendant, c'est l'heure des carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée.
Merci Nagui et à demain.